Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 9 janvier 2023. Avant d'aller plus loin dans cette chronique, comme c'est la première de l'année, mon devoir est de vous souhaiter une excellente année. Tous mes vœux pour une année boursière un peu meilleure que celle que nous venons de vivre, mais aussi tous mes vœux pour le reste. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on peut commencer à parler et reparler du monde merveilleux de la finance. Et je vous préviens tout de suite, si vous pensez que tout a changé depuis l'année dernière et que nous avons corrigé nos vieux travers liés à l'inflation, la récession et à la couleur de cravate de Powell, il vaut mieux retourner tout de suite à la montagne faire du ski. Enfin, s'il y a de la neige. Comme chaque année durant les fêtes de Noël, on a par moments des bouffées d'espoir et d'envie de se dire qu'avec la nouvelle année qui arrive, tout va changer et que l'on va essayer de faire mieux que l'an dernier, de réfléchir un peu plus et d'essayer de voir un peu plus loin que les 15 prochaines minutes. Hélas, le début de l'année boursière, c'est un peu comme les bonnes résolutions de la nouvelle année. En général, le 15 janvier, c'est déjà réglé et l'abonnement de fitness est déjà passé aux pertes et profits. Sauf que nous, dans la finance, après 2 jours de trading en 2023, on était déjà revenus en mode 2022. Le seul sujet que l'on n'a pas encore abordé dans les médias financiers, c'est la guerre en Ukraine. Autant on nous en a bourré le crâne toute l'année dernière, autant les 9 premiers jours de 2023 ont été totalement exempts du sujet. C'est officiel, dans le monde de la finance, tout le monde se fout totalement de ce qui se passe là-bas. Autant il y a quelques mois, on ne pouvait pas prendre une position sans intégrer le fait qu'il y avait la guerre aux portes de l'Europe. Autant depuis que les Chinois ont été libérés par leur propre gouvernement après 3 ans de tôle, on s'intéresse beaucoup moins à l'Ukraine et beaucoup plus au fil d'attente devant les boutiques de Bernard Arnault dans les rues de Paris. Après tout, un sac à main Vuitton, c'est quand même vachement plus cool que le 214e chèque en blanc signé par l'OTAN en faveur de l'armée ukrainienne, histoire de faire un maximum de vues sur Twitter. La semaine dernière, nous avons donc fêté la nouvelle année et aussi le nouvel an chinois un peu en avance. En tous les cas, en Europe, c'était la fête au village et si l'on regarde les prévisions de performance boursière annoncées par les banques d'affaires et autres analystes financiers, on peut se dire que le CAC 40 a déjà fait plus de la moitié du chemin pour 2023. Si l'on part du principe qu'une année en hausse de 10% est le maximum que l'on peut attendre cette année, grosso modo la performance moyenne attendue par les experts, la France a déjà fait plus de la moitié du chemin et à l'allure où ça monte, on se demande bien ce que l'on va pouvoir faire avec l'indice à main nue pour le reste de l'année, puisque normalement dès mercredi soir, le CAC devrait avoir atteint les 10% de performance annuelle. Donc soit l'année va être super chiante ensuite, soit ça va se dégonfler aussi vite que la lumière. En Europe, nous avons donc entamé l'année sur les chapeaux de roue, tout d'abord parce que la Chine va consommer et que ça va être la fête du slip toute l'année chez LVMH, Kering, Hermès, Richemont, Swatch, Bulgari et le reste de l'équipe. Et ensuite parce que l'on s'est rendu compte que le prix du gaz s'était pété la figure, tellement pété la figure qu'il est même en dessous des niveaux qui étaient les siens au moment de l'invasion russe. Une énergie aussi peu chère ne peut donc être que bénéfique pour l'économie européenne. Et cela, c'est sans compter les injections de cash que le Qatar a mis en place pour soutenir la Commission européenne de Dame Ursula. Bref, la première semaine de l'année aura été trop cool pour l'Europe, sauf si vous êtes boulanger. Par contre, c'était un peu différent pour les Américains. Tout d'abord, eux, ils sont moins touchés par le débarquement des Chinois en Europe et plus inquiets d'un éventuel débarquement des Chinois à Taïwan. Mais en plus de cela, il aura fallu noter que les marchés américains sont restés obsessionnellement connectés à la problématique de l'inflation, de la hausse des taux et de la récession à venir. Ou pas. En tout cas, durant la première partie de la semaine, les Américains se sont montrés très inquiets sur la problématique des taux qui pourraient ne pas baisser en 2023, chose qui a été plus ou moins confirmée dans les minutes du FOMC meeting publié mercredi dernier, sans compter que certains experts ont commencé à laisser entendre que plus le marché allait monter, plus la Fed allait monter les taux. On commence à tirer un parallèle entre hausse des marchés et force inflationniste, et du coup la peur était parmi nous. Et si la Fed ne baissait plus jamais les taux ? Sans compter que lors de la publication des chiffres de l'emploi version ADP, jeudi dernier, on s'est rendu compte que c'était bien plus fort qu'attendu, bien trop fort, ce qui laissait supposer que ça n'est pas dans ces conditions que la Fed allait envisager de calmer le jeu au niveau des taux. Mais c'était sans compter la capacité d'improvisation et d'interprétation des experts à Wall Street. Vendredi dernier, nous avons encore une fois réussi un tour magistral. Encore une fois, nous avons su nous montrer inquiets sur la thématique de l'emploi et les risques que ces derniers posaient pour le futur de la hausse des taux. Et la seconde d'après, pour un mystérieux chiffre, au milieu de plein d'autres chiffres, nous avons réussi à tourner la veste, faire changer la direction du vent et tenir le discours inverse de celui que nous tenions environ 12 secondes auparavant. Et si l'on avait le moindre doute, le moindre sentiment que l'esprit des investisseurs puisse avoir changé entre le 31 décembre à minuit et le 1er janvier à 0h01, la réponse était devant nos yeux vendredi dernier. En aucun cas. On était presque encore plus stupides dans certaines de nos réactions que nous avions pu l'être en 2022. Oui, vendredi dernier, les chiffres de l'emploi, les non-farm payrolls ont été publiés. Ils étaient clairement plus forts que les attentes, ce qui n'était pas une bonne nouvelle pour le taux d'intérêt, ce qui démontrait que l'emploi était encore fort, alors que la Fed avait clairement fait comprendre au marché que tant que l'emploi ne se calmerait pas, eh bien, elle ne changerait pas son fusil d'épaule au niveau des taux. Mais, Eureka, au milieu de ces chiffres pourris, trop forts pour la Fed, nous avons découvert un chiffre secondaire. Un chiffre secondaire qui laissait penser que la croissance des salaires était en train de ralentir. Et ça, c'était la formule magique. C'est un peu comme si on avait trouvé la recette du gâteau au chocolat qui fait maigrir et que la frite était un légume diététiquement acceptable pour un régime sans féculents. Le ralentissement de la croissance des salaires était donc la clé. La réponse à toutes nos questions et à tous nos doutes. Alors que jeudi soir, nous étions en train de nous demander si la Fed baisserait à nouveau les taux avant 2030. Voici que vendredi après-midi, pour un chiffre dont tout le monde se fout habituellement, on entendait déjà parler de pivot de la Fed et de baisse des taux éventuels en 2023. Non, sérieusement, ce matin, j'ai dû vérifier mon agenda pour être absolument certain d'être en 2023 parce que vu le comportement des marchés depuis le 3 janvier, je ne suis pas loin de penser qu'on nous a collé un mois supplémentaire en 2022. Donc, rien n'a changé. Nous sommes en 2023 et rien n'a changé. Ce matin, le Japon est fermé. Hong Kong est en hausse de 1,7% et la Chine grimpe de 0,5%. Les exercices militaires que la Chine est en train de mener en direction de Taïwan ne semblent perturber personne. Tout le monde sait que la Chine n'osera jamais attaquer Taïwan. Et les marchés s'en foutent donc complètement et continuent de surfer sur la vague de la réouverture de la Chine. Je ne sais pas combien de dollars le chinois moyen qui voyage va claquer en Europe, mais on a clairement l'impression que l'on compte là-dessus pour relancer toutes les économies du monde. Du côté de l'or, il continue de son début d'année en fanfare et frise les 1 900 $. Finalement, il va peut-être vraiment aller à 4 000. Le pétrole n'a pas profité de la réouverture de la Chine autant que l'on pouvait l'espérer. Ce matin, le brut se traite à 74,67 et on dirait que les Chinois qui voyagent se déplacent en voilier ou en trottinette électrique, mais en tous les cas, pas dans un truc qui consomme du pétrole, à moins que tout était déjà dans les prix depuis des mois. La bonne ou mauvaise nouvelle, c'est que Pierre Honduran, le célèbre fund manager, nous a publié un chart sur Twitter, chart qui compare le pétrole d'aujourd'hui et celui de 2006. Si l'on en croit cette comparaison, nous sommes au début de l'explosion du baril. On se réjouit de faire le point dans 6 mois. En ce qui concerne le Bitcoin, nous sommes toujours dans un coma profond et la crypto-monnaie est à 17 200 $. Mis à part les Brésiliens qui nous font un remake du départ de Trump, mais au Brésil, il n'y a pas grand-chose à dire ce matin. Alors oui, il y a bien la nouvelle du jour à propos de Musk, puisque dans une histoire de procès de manipulation de l'action Tesla, il a demandé que le procès se tienne au Texas et pas en Californie, puisqu'il estime que la presse locale ne l'aime pas et que ça pourrait influencer les jurés. Comme vous le voyez, on a vraiment de la news de première bourre en ce lundi matin. Autrement, on notera que Jack Ma a rendu le contrôle du groupe Ant et que depuis, Alibaba est en hausse. Jack Ma, qui avait de toute façon disparu après son lavage de cerveau effectué par les services médicaux du gouvernement chinois. Ce matin, il y a aussi Goldman Sachs qui vient d'annoncer 3 200 licenciements qui vont être agendés pour cette semaine. La grande banque d'affaires américaine vient de se rendre compte que certains de leurs employés leur coûtaient trop cher. Ça vaut bien la peine de payer des boîtes de consulting à prix d'or pour compter le nombre de feuilles de PQ restant dans les toilettes et se faire surprendre par les coûts engendrés par des mecs qui ont fait économie et finance à Harvard. Pour le reste, on va encore beaucoup parler des banques puisqu'en fin de semaine, il y aura les publications trimestrielles des valeurs bancaires qui vont commencer. Les attentes sont élevées étant donné la hausse des taux. Il ne va pas falloir décevoir. Côté chiffres économiques, nous aurons les chiffres du chômage en Suisse, le trade balance en France, le Sentix Investor Sentiment en Europe et les chiffres de l'emploi en Europe, également. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,3%. Ce début d'année se porte comme un charme et ça va vraiment bien, peut-être un peu trop bien. Pourvu que ça dure, quoi qu'il en soit, je vous souhaite en plus de la bonne année, un très bon lundi et une très très bonne semaine. Et puis à demain, puisque c'est reparti pour un tour.